Il y a rarement qu'une série nulle, mais là...
Vous écoutez...
Serial Causeur.
Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur saison 7. Pour beaucoup de séries, c'est le moment de dire au revoir. C'est la fin des contrats de beaucoup de membres du casting. Pour The Office, on dit au revoir à Steve Carell. Mulder ne semble plus vouloir s'intéresser aux X-Files. Anna Faris quitte sa mère après cette saison. Pour certaines séries, c'est le moment de réfléchir à une fin, puisque les meilleures années sont derrière, avant de faire la saison de trop, n'est-ce pas, Dr. House? Pour quelques-unes, c'est la meilleure saison, comme pour les experts. Souvenez-vous, c'est la saison du Miniature Killer. Pour les podcasts, c'est le moment de se poser la question. C'était mieux avant? Oui, enfin ça, c'est à chaque saison qu'on se la pose. Septième saison de Serial Causeur, grâce à vous, merci de nous être fidèles. Et si vous nous découvrez, bienvenue à vous. On commence doucement avec une petite équipe de causeurs. Il a l'œil torve comme Anna, c'est Stéphane.
Oh. Bonjour, merci, je sais pas, mais enfin c'est bonjour.
Il a la mèche rebelle comme Lorenzo, c'est Maxime.
C'est qui Lorenzo?
Lorenzo Lamas du Rebelle. Culture série, bravo. Non, j'ai pas d'idée, c'est à qui?
Super. Ok.
Bienvenue à vous pour cette saison 7. Alors pour ce premier numéro, on parle de l'été qui se termine. L'année a été mouvementée et depuis le déconfinement, on a un peu mis de côté certaines habitudes et certaines séries sont aussi passées inaperçues. Il est temps de faire le bilan d'un été pas si mauvais que ça, apparemment. Stéphane, est-ce qu'on commencerait pas par les Corona Show?
Parce qu'il y en a eu. Parce que moi je me suis fait les trois qui sont sortis pour l'instant, donc je vais les nommer. Donc il y a Retrograde, une série australienne, Stage, une série de la BBC avec David Tennant et Michael Sheen, et on a la pauvre série américaine qui s'appelle Love in the Time of the Corona, donc qui est un beau jeu de mots avec Love in the Time of the Cholera, et qui est la plus mauvaise de toutes, et donc celle-là oubliée là, voilà. Et sinon regardez Stage et Retrograde, c'est vraiment très bien, c'est fait tout sur Zoom et c'était génial.
D'accord. Et c'était quoi alors, ça racontait quoi?
Alors Retrograde, c'est plus ou moins la vie de 6 amis qui, enfin ils sont même un peu moins que ça, ils sont 4, 5, enfin bon, et plus les pièces rapportées, qui vivent leur confinement, donc ils sont bloqués chez eux, donc ils se réunissent comme nous on a fait pendant le confinement sur Zoom, ils font des soirées, ils se parlent et ils vivent leur confinement comme ils peuvent en fonction de leurs problèmes. Il y en a qui sont bloqués à cause ils ont perdu leur travail, il y en a qui ont des problèmes parce qu'ils prennent de la chloroquine et qui n'en ont plus parce que Donald Trump il dit qu'il faut se jeter dessus, il y en a qui essayent de trouver l'amour, enfin bon bref, la vie quoi.
Et tout ça c'était gratuit, enfin c'était diffusé gratuitement.
De quoi donc?
Ces séries là
Gratuitement, oui, sur une chaîne de télé australienne, oui.
Ah, c'était pas sur Zoom ou sur.
Non,
sur c'était des plateformes. C'était une vraie série, mais en utilisant. Série, voilà. D'accord.
Ouais. Ah. Non, oui, mais ils ont été. C'est les premiers, c'est eux qui ont été le plus réactifs, Retrograde, et ils ont fait le premier Corona Show, et on risque d'en avoir encore quelques-uns quand même.
Et du coup, il y aura une saison 2?
Eh bien, c'est une bonne question. Honnêtement, moi, je dirais pas non parce que je me suis bien attaché au personnage en 6 épisodes là, de 25 minutes. Mais après, va savoir. S'il faut, de toute façon, là, l'Australie a été reconfinée, donc ils ont largement de quoi faire une saison 2. Quoi. Voilà.
Maxime, t'en as vu?
Moi, j'ai vu Love in the Time of Corona et c'était absolument mauvais. Mais vraiment mauvais, parce que j'ai pas vu celle que Stéphane a vue, mais j'ai l'impression qu'elle est plus complète en fait sur ce qui s'est passé pendant le corona, enfin pendant le confinement, alors que celle-ci c'est vraiment moi ça m'a paru pour des problèmes de riches, des gens qui sont bien logés, qui sont confortables dans leur maison et qui essayent de trouver l'amour. Alors déjà c'était pas la priorité je pense pendant le confinement, donc pas ce qu'ils ont vécu, mais on n'a pas du tout vécu la même chose. Et c'est super facile. Enfin, il y a l'histoire d'un homosexuel avec sa meilleure amie. Ils sont confinés ensemble dans une grande maison. Ils fantasment tous les deux sur leur voisin qui est un canon qui prend des douches tout nu dans
à poil dehors en plus. Hein.
Voilà, dehors. Donc quelque chose de très très crédible. Enfin, moi je regarde chez mes voisins, il y a pas de canon qui prend sa douche tout nu. Hein.
Et, parle tout nu, mais j'ai pas, il est pas canon. Voilà. Merci. Bien sûr.
Et je sais pas, enfin, je trouve que c'était fait super facilement. Il n'y a pas vraiment de scénario. Sur les quatre épisodes, tu as quatre sections, je crois, avec quatre couples différents où ils sont tous à un stade d'une relation amoureuse un peu différente. Mais en fait, bah, tu stagnes, il ne se passe rien. Et bah, désolé, mais les acteurs ne sont pas bons, quoi.
Oui, non, ça en plus, c'est vrai. Mais pour le coup, Retrograde a su capter quand même l'angoisse générale. Et le sentiment la perte totale d'un contrôle, enfin de tout quoi, enfin c'était, et les personnages ne sont pas bien, ne vont pas bien. En plus, il y en a un qui, sa mère, elle a un problème, elle a un cancer, donc il y a des problèmes pour aller à l'hôpital et tout ça machin. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont des sujets forts et qui sont traités de manière intelligente. Alors sur un temps très court, hein, en plus ils se sont, d'ailleurs les dialogues sont vraiment très bons là-dessus. Ils n'ont pas beaucoup de temps et ils arrivent à les taper là où ça fait mal de suite. Et Retrograde est vraiment bien là-dessus. Elle a su vraiment capter ce qu'était le confinement et qu'on a tous vécu, hein, parce qu'on s'est un peu parlé, on sait que ça n'allait pas bien tous les jours et tout ça machin. Et elle a vraiment réussi à capter ça, quoi. Et ça, pour le coup, moi je dis chapeau, quoi.
Est-ce que ça fait vraiment web série dans le sens où c'est juste la caméra en face? Non, c'est plus que
ouais, c'est beaucoup plus que ça. Et tu arrives carrément à oublier qu'en fait ils sont face à leur ordinateur. Et, en fait, c'est parce qu'il y a une histoire et que c'est suffisamment prenant. Même stage, hein, tu te dis voir David Tennant et Michael Sheen qui se parlent via Zoom, ça va être chiant à mourir. Ouais. Et ben en fait pas du tout, parce que il y a une vraie histoire, il y a un machin, et t'oublies carrément qu'en fait ils sont bloqués chez eux et que David Tennant il est obligé de s'occuper ses gosses et que parce que Georgia Moffett elle est en train d'écrire un livre,
oui.
et que l'autre il vient d'avoir un gosse avec une fille de 25 qui a 25 ans de moins que lui, quoi. Enfin, voilà. Et même là aussi, même Stage a réussi à capter le fait que ben, tout le monde n'allait pas bien et David Tennant il pète une durite, quoi. Enfin, il est là bloqué, il sait pas quoi faire, il tourne en rond, il hurle dans son jardin tous les matins, il fait peur à ses voisins. Et ils arrivent à vraiment avoir pris la température de ce qu'était vraiment le confinement et ce que ça a eu comme impact sur notre santé mentale, quoi.
Et c'est là où je trouve que Love in the Time of Corona loupe totalement le coche, parce que la production elle est très léchée. Enfin, ouais, très léchée. C'est super solaire, ils sont dans des grandes maisons et ils n'ont pas capté le fait d'être confinés. Pour eux, être confiné, c'est être dans un même espace. Donc en gros, on se retrouve avec un huis clos plus qu'une série de confinements. Et c'est des personnages qui vont bien, ou alors ils ont une situation qui est un peu compliquée. Par exemple, il y a un couple marié qui est sur le point de divorcer et dit, bon, là, on va peut-être... je sais pas, on va utiliser le confinement pour avoir quelque chose d'assez dur sur l'histoire d'une relation de 25 ans, je crois. Et non, en fait, tout de suite, ils partent dans quelque chose de très lumineux. Et à la fin, je spoil parce qu'en même temps, personne ne va regarder la série. Mais à la fin, bah, il sera biboche parce que leur fille, elle veut qu'il sera biboche. Il se redécouvre des sentiments, tout ça. Et en fait, bah, en quatre épisodes, tu vois pas pourquoi, parce que t'as rien sur leur histoire, il n'y a pas eu de moment un peu dark, ils sont totalement coupés du monde extérieur. Je crois qu'il n'y a que dans un seul épisode où un des couples, des Afro-Américains qui essayent d'avoir un bébé, regarde les réseaux sociaux. Et du coup, ça déclenche chez l'homme un sentiment d'angoisse, de panique, parce qu'il y a des violences policières. Mais à aucun moment, on va utiliser les réseaux sociaux pour parler du confinement. Non, on parle de totalement autre chose. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi ils ont voulu appeler ça « Love in the Time of Corona », alors que ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Enfin, vraiment, la série loupe tout, tout, tout.
Et dans le même genre, est-ce que vous avez vu l'épisode de Happy Endings, du coup ?
Non.
Est-ce que c'était vraiment un vrai épisode ?
Bah oui.
Ah ouais, faut peut-être que je le regarde alors. Okay.
C'est pas une lecture d'un ancien épisode ?
Non, non, c'était un truc écrit a priori pour l'occasion.
Pour le coup, celui-ci était top.
Celui de
Community, pardon. De Parks and Recreation.
Ah, ah oui.
Oh là là. Oh, je m'en veux de mettre.
Oui, j'avais pas.
Mais celui de Parks and Recreation, franchement, c'est une pépite. Vraiment, c'est un de leurs meilleurs épisodes. Ils ont réussi à capter le truc de Zoom et de garder l'essence même des personnages et de la série et de faire ça en 20 minutes. Enfin, comme ça, moi, j'ai trouvé ça génial. Vraiment.
Pareil, bah, pour le coup, on peut en parler parce que c'est All Rise, c'est les seuls qui
Ah
ont,
oui.
dans leur saison complète, ont fait un épisode tourné en Zoom et qui continuent l'histoire et qui se passe pendant le confinement et qui se disent comment fonctionne la justice pendant le confinement, comment on peut faire pour que tout continue à tourner, parce que sinon, si on s'arrête, il va y avoir des problèmes de surpopulation, de gens qui ne peuvent pas sortir de prison alors qu'ils devaient sortir.
C'est
Enfin,
très bien, ouais.
Il était vraiment très, très bien cet épisode de All Rise, qui est donc le seul qui a été tourné. Pendant le confinement, en se disant, bah, tiens, on va intégrer de suite comment ça se passe, quoi.
D'ailleurs, ça va être un enjeu de pas mal de séries à la rentrée qui vont vouloir adresser
ouais.
Le virus ou même de la situation sanitaire. Je pense à Grey's Anatomy, j'ai vu qu'ils voulaient faire tout un arc dessus.
Ah, alors, quasiment toutes les séries médicales, de toute façon, elles ne peuvent pas passer au côté du sujet là maintenant, quoi.
Mais même en dehors de ça, je pense qu'il y a pas mal de séries qui ont des choses super intéressantes à dire dessus, genre Superstore ou même Brooklyn Nine-Nine. Bon,
Brooklyn Nine-Nine a aussi d'autres chats à fouetter.
oui, c'est sûr. Mais je veux dire, s'ils arrivent vraiment bien à mêler les deux situations, ils peuvent faire des trucs vraiment super pertinents, je pense.
Et même on aura This Is Us qui a donc décidé d'intégrer carrément toute cette histoire dans la saison 5. Hein. Donc déjà, ça peut être aussi intéressant de le voir de notre point de vue, juste d'une histoire d'une famille, quoi.
À qui ?
Oui.
Parle-nous de Teenage Bounty Hunters.
Oui, que j'ai regardé très très récemment, vu que c'est sorti de toute façon il y a quoi
15 jours.
Ouais, environ. Le titre prête un petit peu à confusion. On pourrait croire que c'est un truc hyper violent parce que ça se trouve qu'on va voir des gosses qui vont, je sais pas, tuer des gens peut-être, ou qui vont. Non, on reste dans un teen show. Mais un peu décalé, beaucoup très satirique, où effectivement ce sont des jeunes qui vont attraper des criminels. Mais rien de hyper violent. Ce qui est pas mal, c'est que les deux héroïnes sont jumelles. Et comme tout le monde le sait, les jumeaux sont télépathes, évidemment. Et donc, en fait, elles peuvent se parler en un regard, avoir des conversations dans leur tête. Et je trouve ça trop drôle. Bref, j'aurais voulu avoir un frère ou une sœur jumelle, rien que pour ça, bien entendu. Car c'est la vérité, la réalité des choses.
Bon, c'est pas des vraies jumelles, hein.
Bah oui, elles sont pas identiques, c'est dans ce sens-là, oui.
Non, mais c'est deux actrices qui sont même pas sœurs, quoi.
Oui. Non, mais... ah bon ? Non, mais ouais. Et ouais, donc en fait, c'est assez sympa parce qu'elles font partie d'une famille de républicains chrétiens, donc protestants hardcore. Et c'est rare qu'on ait ce point de vue-là avec un certain second degré en mode... C'est bien, mais en même temps, il y a quand même des critiques à avoir. Mais ce ne sont pas des gens en mode complètement taré, ce qu'on peut penser, par exemple, de followers de Trump, par exemple. Mmh. Et ça, mais franchement, je pense que même les séries en mode Insatiable ou CB, une vieille série qui a été annulée après une saison, mais aussi avec le côté bien chrétien, etc., c'est la première fois que je vois une série aussi subtile sur ça. Donc, elles ont des armes, elles le disent, qu'elles sont pro-armes, etc. Mais ensuite, il y a quand même une réflexion derrière en mode effectivement, on peut tuer des gens par inadvertance, quoi. Voilà, ça arrive.
Les deux actrices sont vraiment bien. Je trouve qu'elles sont. Il y a une belle alchimie et puis elles sont très fun à voir. Je trouve qu'elles sont. Tout de suite, on est, elle respire pas la sympathie, mais on sent que ces deux personnages vont être intéressants à voir en fait. Le côté teen show est encore là, bon, évidemment avec tout ce qu'il faut comme uh-huh. cliché, mais avec la peste, avec le bon copain, des choses comme ça. Mais
en vrai, justement, tu dis ça, mais tous ces clichés ont ouais. des twists. Chacun a son petit twist et c'est pas du tout ce que tu penses. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Et petit, juste une anecdote, mais j'ai vu que dans le générique, à chaque fois, c'était l'une fille avant et puis l'autre fille qui apparaissait en premier dans les cartons des crédits. Et j'ai trouvé ça vachement sympa de les mettre sur un pied d'égalité pour ça. Voilà.
moi, j'ai pas aimé du tout et je trouve ça même très con. Alors, j'ai arrêté très vite. Voilà.
C'est un peu... Non, comment tu peux dire ça ? C'est genre vraiment l'humour absurde qui manque un peu pour les teen shows, quoi.
Non, clairement pas, mais mais d'accord, mais pourquoi pas. Mais oui, mais c'est bien.
Oh, catastrophe. Stéphane.
Oui.
Est-ce que tu veux nous parler de Little Voice ?
Ah, si, c'est une série made in J.J. Abrams et Sarah Bareilles.
Est-ce que ça dit pas tout déjà ?
Si
bah non, peux... Sarah Bareilles, elle a fait Waitress et c'est genre trop bien.
Ben voilà. Si, j'aime bien les chansons de Sarah Bareilles déjà à la base. Moi, je suis un mec romantique,
ouais,
tu vois.
Bah, pas, enfin, on en reparlera, mais la chanson, l'une des chansons de la série là, qu'elle a sorti dans sa propre version, bah, elle est moins bien que celle de la série.
Ah oui, bon, ça après. Mais non, Little Voice, à part ça, c'est la vie d'une fille qui essaye de faire de la musique à New York, quoi. Donc, ça aurait pu être bien, et au final, c'est juste chiantissime.
Voilà.
La fille devient insupportable d'épisode en épisode. C'est une catastrophe parce que madame, eh ben en fait, elle a deux amoureux, donc elle sait pas choisir. Donc c'est un peu dur. La... Non, pardon, quatre, au moins quatre.
Voilà.
Non, c'est pas terrible. Alors même les musiques, on n'a jamais de chansons en entier. Enfin, c'est un peu raté, je trouve. Ça se regarde, ça peut se regarder très bien.
Non,
mais
non,
c'est
ça ne se pas... regarde pas, c'est de la perte de temps.
Oui,
c'est
même ça pas se regarde, ça se regarde.
Enfin, oui. Ça se regarde pas.
Ouais, moi, pour vous dire, à un moment, il y a un épisode, j'avais oublié que je l'avais lancé, je suis parti de ma chambre, je suis revenu, l'épisode était encore en cours, j'ai fait « Ah merde, j'ai oublié, je regardais ça, quoi. »
Ah ouais. Non, mais il se passe rien, vraiment. Et en plus...
Non, alors ça, c'est vrai, il se passe pas grand-chose, hein, quand même. En 9 épisodes, il y a vraiment... Voilà.
Et les gros plans sur elle en mode oui je suis pensive, oh là là je chante dans ma tête, non quoi, ça suffit. Enfin,
mais elle est voilà. Mimi Brittany O'Grady.
Non mais c'est pas une question, non franchement même si elle aurait pu être parfaite avec ce qu'on lui a donné, et même je suis désolée mais elle chante pas si bien que ça, et ça me tue, voilà.
Mais c'est vrai que quand j'avais demandé si c'était comme Sweet Bitter version musique, on m'a dit oui. Bon, mais, genre une petite bluette, un peu urbain, une série un peu urbaine, où on voit un petit...
Urbain parce que... Non.
Ça veut dire...
Une fille qui suit voilà, un peu la vie, le jour, la nuit, ses petits tracas, et ça va pas plus loin. Alors effectivement,
ça va pas
c'est aussi léger que Sweet Bitter. Ce Sweet Bitter, il manquait quand même beaucoup de choses pour en faire une bonne série. C'était très léger, voilà. Et effectivement, c'est peut-être trop léger parce que moi, pareil, là, j'ai continué parce que voilà, c'était sympathique, mais en fait, au bout de 5 minutes, c'est comme Instagram, quoi. Tu vois des bons trucs, mais tu les passes, c'est des stories, tu les passes.
Pas mal, ça, la série Instagram. Ouais,
mais
il
y a quand même de bonnes choses. Enfin, il y a de bonnes choses. Il y a des trucs sympas, genre l'idée de mettre ça un peu dans une ambiance très musicale, genre New York, à chaque coin de rue, il y a des musicos. Bon. C'est idéaliser un peu la ville, mais aussi l'idée d'avoir les box là où ils vont bosser un peu, ça donne un peu une ambiance un peu intimiste, c'est pas trop mal, mais c'est vrai que le drame dépasse jamais la limite de oh là là, enfin c'est pipi de chat quoi, c'est...
En plus, il dit ça, mais tu vois, Sweet Bitter avait le mérite d'avoir des personnages secondaires vraiment intéressants.
Oui, bah oui.
Alors
voilà,
là, je suis désolée, mais ils ont essayé de faire « Oh là là, elle a un frère handicapé. » Non, pardon, autiste.
Il est autiste.
Mais, enfin, voilà, autiste. Et franchement, ok, c'est cool d'avoir, d'entendre des comédies musicales, d'avoir des références un peu drôles, mais franchement, ça servait à rien, je suis désolée.
Et même le caméo de Sarah Bareilles dans le dernier épisode est ridicule.
Oh là là. Bref, j'étais dégoûtée. Voilà.
Ouais, enfin, c'est... Est-ce que c'est pas aussi fade que Sarah Bareilles?
Mais pas du tout! Comment tu peux dire ça?
Mais parce que, voilà, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas du DJ Abrams, quoi.
Bad Robot produit des merdes, hein, de temps en temps. Hein.
C'est Felicity version musique.
Non, Felicity, c'était trop bien.
Est-ce que tu l'as revu depuis?
Depuis, non. Ah, mais voilà. Je l'ai vu assez tardivement, quand même. Enfin, je l'ai pas vu quand c'était diffusé à la télé. Donc, ouais.
Maxime, est-ce que tu peux nous parler de la fin d'Agent of S.H.I.E.L.D. quand même?
Ah oui, du coup c'était la dernière saison, la 7e, et c'était top. Enfin franchement, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai eu un peu peur au début de la saison.
Ah ouais, c'était une catastrophe les deux premiers épisodes. Hein.
Ouais, j'avais peur aussi, hein, je vous le dis. Ouais.
Je sais pas, on sentait qu'il y avait un peu une fatigue, qu'ils savaient pas trop où ils allaient. Moi j'avais très peur du méchant, je comprenais pas vraiment où il voulait en venir.
Quel méchant, parce qu'il y en a quand même ça a changé pas mal quand même.
Non mais c'est ça en fait, c'est que j'avais l'impression qu'ils essayaient d'installer un fil rouge qu'il y avait du mal à prendre. Après la forme du voyage dans le temps, dans les différentes timelines, ils sont
fait plaisir, hein.
et ça marche souvent. Il y a parfois où il y a des petits ratés, mais je trouvais que c'était vraiment sympathique. Je ne retrouvais pas la série, par exemple, que j'avais vue en saison 5, qui est pour moi la meilleure.
Oui, clairement.
où là vraiment c'était on a un concept et on le pousse à fond. Là, le concept, il a quand même mis du temps à venir, du temps à s'installer, mais par contre, on finit avec un final du feu de Dieu. Enfin, vu la saison, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait deux derniers épisodes comme ça. Déjà, moi, ils ont trop joué avec mon cœur en faisant venir Fitz que à la fin.
Ah oui.
Là, ça, je n'étais pas d'accord. Mais bon, après, il est top dans le dernier épisode et je trouve que leur conclusion, elle est plutôt bien vue.
Donc, c'est dans la dernière saison où il y a l'épisode vraiment centré Fitzsimmons, ou c'était dans la sixième, j'ai un doute là soudain. Je les ai enchaînés alors.
Dans la sept, il y a tout un segment, il me semble, du final où ils sont, où on voit un peu leur vie.
Oui, c'est ça, j'ai adoré ce moment-là, c'était trop mignon. Ouais.
Mais par exemple, tout ce qui est autour de Daisy, moi ça m'a jamais trop intéressé. Enfin, il y a eu des moments où c'était bien. Mais dans cette dernière saison, je trouve que c'était un peu en trop de lui faire revisiter son histoire familiale, des choses comme ça. On avait compris, on avait déjà tout vu.
Enfin, vous dites ça, mais on s'en foutait quand même de la relation entre Fitzsimmons. Hein, donc en même temps,
Comment bah, alors,
ils ont fait que réinsister sur Fitzsimmons parce qu'ils pensent qu'il y a que ça qui intéresse les gens. Mais pour le coup, moi, j'ai préféré l'histoire qu'il revisite encore une dernière fois. Et de manière assez intelligente, je trouvais l'histoire familiale de Daisy, parce qu'en fait, au final, c'était quand même elle, notre entrée dans la série, et c'est avec elle que ça se termine. Quoi.
Mais alors ça, je suis complètement d'accord, la boucle est bouclée. Pour le coup, je les ai vraiment enchaînées. En mode, j'ai vu la saison 1 à 7, quand la 7 a été terminée. Et comme tu dis, ça, j'ai apprécié de revoir Afterlife, etc. Quoi. Ça, c'était...
Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment ça sympathique. Et en fait, ils ont réfléchi, ils ont fait plaisir à tout le monde parce qu'ils ont fait revenir des trucs intéressants de toutes les saisons. Quoi. Donc, c'est vraiment sympa. Quoi.
Et ils ont fait revenir un personnage de Agent Carter.
Oui. Et en fait, qui a joué dans Dollhouse avec Dishon Hartman qui joue la mère de Daisy. Quoi.
Ouais.
Voilà.
Donc, mais par contre, ils se sont pas croisés. C'est ça qui est dommage.
Si. Ah si, absolument. Ils ont une scène ensemble quand ils
sont dans Lighthouse.
Parce que du coup, je me dis, ah, ça y est, Rainian, tu vois. Voilà. Je veux juste te dire quand même que l'importance... je pense que Agents of S.H.I.E.L.D., c'est vraiment l'une des rares séries de network où je vois le plus asiatique représenté. Donc non seulement dans l'équipe, enfin dans le cast principal, elles sont quand même deux, mais vraiment même dans les méchants ou dans les acteurs, les personnages récurrents et secondaires, il y en a quand même pas mal. Et je crois que c'est l'une des vraiment des rares séries de network à faire ça. Et forcément parce que la co-créatrice est d'origine asiatique, quoi. En revanche, leur prénom était absolument horrible. C'était n'importe quoi, j'avais trop honte.
Même la diversité en général, il y a un cast très, très divers. Il y a Mac, aussi
Yo-Yo.
Et moi, ce que j'aime bien dans cette série, justement, pour rebondir sur la diversité, c'est que c'est jamais un sujet.
Oui.
On va mettre ça parce qu'il faut parler, je sais pas, des violences policières, du racisme envers les Asiatiques ou quelque chose comme ça. Non, ils sont là, ils existent, ils sont comme ça, on s'en fiche. Et vraiment, ils forment une équipe où ils sont tous, ils sont tous soudés. Enfin, vraiment, moi, j'aime bien ce côté un peu de diversité positive où t'as pas forcément besoin d'avoir des sujets de société pour montrer des personnes différentes.
Et c'est vraiment bête à dire, mais en fait, quand les gens s'apprécient dans une série, enfin les acteurs s'apprécient, ça se ressent vraiment. C'est super bête à dire, hein, mais c'est la réalité.
Et au final, vu que c'était une série qui avait quand même mal commencé au niveau des critiques et au niveau artistique, est-ce que finalement c'est une série qui est à voir ?
Ah oui.
Oui.
Ben, c'est la meilleure chose que soit arrivée à l'univers Marvel, donc
Très bien, Maxime. Garde la parole, tiens, parle de I May Destroy You.
Ah, le gros morceau de l'été.
Oui.
I May Destroy You, c'est une série de HBO, HBO Max, je sais plus.
BBC surtout.
Les deux, quoi. Et ça raconte l'histoire d'Arabella, qui est pas une journaliste, c'est... une fille qui aime beaucoup s'amuser, qui aime beaucoup prendre de l'alcool, de la drogue, qui aime beaucoup sortir. Et elle écrit des papiers sur...
Quoi ? En étant journaliste, on boit de l'alcool, on va faire de la fête et on prend de la drogue. C'est pas du tout la vie de même.
Voilà.
Elle va un soir dans une boîte et en fait, elle se fait violer. Sauf qu'au début, elle se rend pas vraiment compte qu'elle s'est fait violer. C'est au fur et à mesure... des jours qui passent, des différents sujets qui sont abordés, qu'elle réalise ça. Et tout au long de la série, en fait, on va avoir tout son processus de reconnaissance de cette agression sexuelle, de qui l'a fait, parce qu'elle ne sait pas, elle ne s'en souvient pas, en fait. Et elle essaye de trouver qui c'est. Il y a son meilleur ami, Kwame, qui également se fait violer dans l'épisode 4, qui pour moi est l'épisode le plus dur de la série. Enfin, franchement, cet épisode, j'ai arrêté la série après, parce que c'était vraiment super, super dur à vivre. Et après, j'ai repris. J'en parlais avec Stéphane et il me disait « Mais vas-y, c'est super bien après. » Donc, j'ai repris. J'ai bien fait parce que vraiment, cette série, elle est ultra importante. Pour moi, c'est celle qui aborde le viol de la meilleure manière possible, de la manière la plus juste possible, parce qu'on a et le processus de la victime, mais on a aussi tout le processus judiciaire et policier. Et on comprend aussi pourquoi, en fait, les gens ne vont pas porter plainte. La scène, il y a une scène horrible, mais vraiment horrible, où Kwame va chez les flics. Et le flic, en fait, il ne sait absolument pas comment prendre sa plainte. Il lui dit « Mais vous êtes sûr ?» Vous êtes sûr qu'en fait, vous n'avez pas juste dit oui et vous avez oublié. Écoutez, je ne sais pas comment parler de comment prendre votre déposition. Je vais demander à quelqu'un. Il le fait poireauter. La personne revient après et fait bah, « En fait, il faudra revenir plus tard. » Enfin, vraiment, cette scène, elle est horrible, mais horrible. Et toute la série est parsemée de moments comme ça, vraiment super durs. Mais en même temps, on a des personnalités. Enfin, Arabella, elle a une personnalité super positive. Enfin, pas positive, mais enjouée, le fait qu'elle veuille tout le temps faire la fête, elle ne s'apitoie pas sur son sort. Elle essaye de combattre ça. Et ça donne une saison, mais dantesque. Enfin, franchement, à part, j'ai un petit bémol sur la toute fin, où on ne comprend pas tout de suite ce qu'ils veulent dire. Le moment où on découvre qui est le violeur et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait que c'est cette personne. Le message qui passait était un peu bizarre, mais vraiment, I May Destroy You, c'est pour moi la série de l'année. Vraiment, j'étais par terre à la fin.
Et du coup, il y aura une saison 2 ?
Non.
Non, je pense pas.
J'ai une question après ce que tu as dit, Maxime. Par exemple, ce que tu as dit là, j'aurais pu l'appliquer à Unbelievable. Donc, est-ce que tu considérais que c'est une version un peu plus britannique, tout simplement, ou un peu osée sur tous les points, ou pas ?
Non, parce que Unbelievable, moi, de mon sens, les victimes, enfin, c'était très, je sais pas comment dire, pour pas victimisant, mais il y avait quelque chose de très, ah mince, j'ai pas le mot, mais
dramatique, enfin genre mélodramatique un peu, ouais, ou
dramatique et t'as tout l'aspect policier qui est vraiment important dans Unbelievable, oui, que là on n'a pas.
Ok. Bref,
on est auprès de la victime. Et c'est pas une victime qui va se replier sur elle-même. C'est un processus très très particulier, mais très juste. Et Unbelievable, moi je suis pas rentré dedans. Je la trouve très bien la série. Je trouve qu'elle est super bien faite. Mais je suis pas rentré dedans. Alors que là vraiment j'étais avec elle. C'était
même très dur. Il faut dire que Michaela Cole, donc qui joue Arabella, qui a écrit la série, etc. Enfin, et ouais, en fait, elle s'inspire de ce qui lui est arrivé. Donc, ouais, elle sait de quoi elle parle. Elle a traversé ça. Elle a réussi à en tirer et à l'écrire. Et en fait, c'est le truc le plus juste sur le consentement, sur le viol, ah ouais, et sur les traumas, le trauma que tu vis et que tu es obligé, que tu as, il faut arriver à vivre avec, le dépasser, et pour pouvoir penser à la suite, quoi. Enfin, de tous les, enfin, c'est dingue, mais c'est un chef-d'œuvre, quoi. Enfin, ah ouais, en termes d'écriture et de retranscription de ce qu'elle a vécu, on ne pourra pas faire mieux, quoi. Pour le coup, cette série-là, sur ce thème-là, risque de devenir une référence, quoi.
Et il y a aussi un truc super intéressant, c'est qu'elle n'oublie pas qu'elle parle en 2020.
Oui.
Il y a un propos sur les réseaux sociaux. Parce dans les réseaux sociaux, c'est une influenceuse. À un moment, il y a tout un épisode où elle est prise par la boîte pour laquelle elle bosse pour devenir égérie, enfin publicitaire, des choses comme ça. Et en fait, on voit qu'elle développe une relation aux réseaux sociaux qui est
malsaine. C'est malsain, mais c'est salvateur mais malsain. C'est
salvateur mais malsain. C'est là où elle trouve du réconfort, tout en Et par contre, la série montre que c'est pas bien. Y a une fin d'épisode, je crois que c'est la fin de l'épisode 3, où elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait violer, que vraiment là on voit le trauma qui arrive. Et en fait, la seule lumière de l'épisode, c'est quand elle se couche dans son lit et qu'elle regarde qu'elle poste une photo et que les gens aiment. Et en fait, on voit les j'aime qui arrivent et là on voit son sourire. Enfin, elle est heureuse. Et franchement, ça fait flipper. Ça fait flipper, mais c'est super juste.
There's so much injustice, and my job is to speak the truth.
Thank you for what you're doing.
I love you too.
Et c'est disponible sur OCS. Aki.
Oui.
On parle de toute autre chose avec Brave New World.
Est-ce que je peux changer d'avis? Enfin, je peux parler aussi de Brave New World, mais je voudrais aussi surtout parler de Babysitter's Club.
Quel tu veux privilégier?
Je vais privilégier Babysitter's Club dans ce cas.
Alors vas-y.
Si, comme moi, vous êtes né il y a quelques décennies déjà, et vous avez peut-être lu la série de bouquins Le Club des Babysitters. En vrai, il y avait encore ce côté, c'est hyper genré, quoi. Tu vas sûrement pas lire une série qui s'appelle Le Club des Babysitters, disons-le.
C'est possible.
Voilà. Voilà. Et en fait, c'est vraiment... c'est un peu genre Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte. Enfin, c'était vraiment une grosse série à l'époque. Bon, l'idée, c'est des gamines de 13 ans, en fait, qui vont créer un club de babysitter pour garder... Bon, souvent, c'est des gamins de leur famille, mais après, il y a aussi les voisins, etc. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, ça se passait dans les années 90. Hein, donc, c'est tout ce qu'il y a de plus cool dans les années 90, dans la banlieue américaine hyper riche, etc. Mais, enfin, pas forcément hyper riche d'ailleurs, parce que dans le groupe des babysitters, il y en a qui sont un peu plus de familles modestes. Et alors, c'est vraiment, si vous aimez n'importe quoi, Anne with an E sur Netflix, vous allez aimer Le Club des Babysitters. C'est relativement jeune, il faut le dire. Hein, genre, effectivement, moi, je l'ai regardé un peu par nostalgie, mais surtout, c'est hyper enthousiasmant, c'est très optimiste, et ça montre vraiment une vision de la jeunesse qui est hyper différente de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, comme quoi il y a encore de l'espoir dans ce monde, voilà. Et bah, c'est juste mignon et c'est hyper inclusif, il y a vraiment de tout, ça parle aussi pas mal de... Bah, pour une fois, il y a un personnage d'origine amérindienne, on va dire, hein, tout simplement, et ça c'est pas mal du tout. Et bah voilà quoi, enfin, regardez, c'est mignon, c'est super.
Est-ce que c'est pas trop enfantin?
Mais,
j'ai eu peur de ça, c'est pour ça que j'ai pas regardé en fait.
Bah, est-ce que tu trouves que Anne with an E c'est trop enfantin ou pas?
Bah, j'ai pas regardé parce que ça me votait pas, mais.
Alors c'est enfantin, hein, c'est clair et net, mais trop enfantin, je dirais pas, parce que tu peux encore lire une fois seconde lecture, blablabla. Bla, bla. Okay. Bon, mais après, ce sont des gamines de 13 ans, 14 ans, hein, 13-14 ans.
Oui, c'est pas ce qui me dérange, mais bon. Ouais.
Voilà. C'est sur Netflix, c'est ça?
C'est sur Netflix, première saison pour le moment, ça va sûrement être renouvelé. Et c'est, franchement, c'est juste que ça casse les clichés et ça fait plaisir, quoi. Et déjà, à l'époque, c'était vachement avant-gardiste et vachement féministe, donc c'était vraiment sympa. Voilà.
Stéphane.
Oui.
Tu dois choisir une série, là.
Oui.
Mais parce qu'après, le reste, on va faire en rapide. Okay. Donc, laquelle tu veux mettre en avant?
Ouais, je vais parler d'I Hate Suzy.
Allez.
Et donc, I Hate Suzy, c'est la nouvelle collaboration entre Lucy Prebble, la scénariste et auteure de pièces de théâtre, et Billy Piper. Elles ont travaillé ensemble sur l'adaptation de Secret Diary of a Call Girl. Donc là, elles se retrouvent pour donc, I Hate Suzy, qui parle d'une... C'est plus ou moins un alter ego de Billie Piper. Et en fait, elle est imbriquée dans un scandale sexuel parce qu'il y a des photos d'elle où elle est en train de sucer un pénis qui sont dévoilées, qui tombent dans la presse. Elle se fait hacker. Et donc, en fait, elle est obligée de gérer ce problème-là émotionnellement, professionnellement et avec sa famille aussi parce que c'est un sacré impact. Et donc, voilà. Et Billie Piper est juste exceptionnelle dans cette série-là. Bon, on savait qu'elle était vraiment très bien, mais là, elle passe par toutes les émotions, elle est de quasiment tous les plans. Y a pas la caméra, est vraiment, en plus, elle est collée à sa tête. On la voit réagir à tout et de manière assez dingue. Et
comme Secret Diary, en gros, quoi, ouais. Au niveau de la réal, de la forme.
Et c'est beaucoup plus angoissant. La caméra est beaucoup plus angoissante là. parce qu'elle est, enfin, elle est, enfin, elle représente quand même tous les, tout ce qui se passe dans sa tête, mais parce que je, c'était quand même plus lumineux quand même dans Secret Diary, je trouve. C'était plus posé.
Vol dans Secret Diary que dans I Hate Suzy, je trouve.
Elle est plus quoi, pardon?
Dans Secret Diary of Call Girl, il y avait quelque chose de plus frivole, enfin.
Oui. C'est plus drôle aussi, parce que là, c'est pas drôle du tout, quoi. Enfin, non, pour le coup. Alors, c'est de l'humour très noir, mais c'est pas drôle du tout. Mais il y a des choses qui te secouent, moi, il y a certains épisodes qui ont été compliqués à regarder, quand même. Non, c'est vraiment très bien. Alors, ils disent que c'est une dark comedy, mais alors, moi, je vois pas où c'est que c'est comique du tout, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, non, c'est vraiment très, très bien. Je savais même pas que ça arrivait. C'est sorti là sur Sky, ils ont tout sorti d'un coup et franchement, ça, il faut vraiment la regarder, quoi.
Moi, je trouve qu'il y a une certaine parenté justement avec I May Destroy You. Je sais pas si c'est parce que j'ai vu à très peu d'intervalles, mais oui, là, c'est une autre forme d'agression sexuelle, mais on est vraiment dans sa tête, comme tu dis, et c'est pas forcément gentil envers elle-même non plus. L'épisode où elle se drogue. Elle pète totalement un câble et enfin elle part en soirée avec.
Oui, parce qu'en plus chaque épisode représente un état mental dans lequel elle est plus ou moins. Donc il y a aussi ça et donc à un moment donné elle fait vraiment de la merde comme quand elle se drogue avec Dexter Fletcher. Mm-hmm. Mon Dieu, qu'il y a une scène. Bon, enfin bon, bref.
Ah ouais. Cet épisode, c'est là où je me suis dit ok d'accord. Donc ça fait deux épisodes, on est en train de la suivre. On a de la compassion pour elle parce que ce qui lui arrive c'est vraiment pas cool. On déteste son mari parce que son mari est vraiment pas cool. Moi c'est le gros bémol que j'ai sur la série, c'est lui, mais bon, j'ai pas tout vu encore. Mais dans cet épisode, en fait, on se rend compte qu'elle a quand même un comportement autodestructeur,
clairement,
qui n'a rien à voir avec son agression sexuelle, enfin son harcèlement sexuel. Qui n'a rien à voir avec ça, mais qui ne l'excuse pas pour autant. Et je trouve que ça la rend encore plus. Enfin, on a encore plus d'empathie pour elle parce qu'on n'est pas face à quelqu'un qui est juste une victime. On est face à une femme à qui il arrive
une saloperie.
Une saloperie. Et comment on réagit quand on est comme ça. Et comment on réagit quand on est aussi une pop star. Parce que c'est le même épisode où elle est dans un Q&A. Sur sa série où en fait tu vois vraiment que c'est un simili Doctor Who.
Ouais.
Et elle ment à son public en sachant très bien que derrière en fait tout va être vérifié et que quand elle ment au public, on sait que dans les 5 minutes de l'épisode après, il y a le mec va arriver pour dire non, regardez, c'est vraiment elle, je vous renvoie des photos quoi. Donc non, vraiment, moi j'aime beaucoup, il me reste 3 épisodes à regarder. Je trouve ça vraiment très très bien.
Et pour terminer, on va faire les reviews express, parce que cette saison, on a décidé quand même de faire court au niveau émission. Maxime, Dark saison 3, est-ce que la conclusion vaut le coup ?
Alors, la saison vaut le coup, la conclusion, je suis un peu mitigé. Le dernier épisode, moi, m'a pas totalement plu. Mais la saison est vraiment cool. Enfin cool, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ils vont jusqu'au bout de leur logique et c'est leur logique, enfin c'est pas la logique de tout le monde. On pousse le curseur encore plus loin et en fait ça fonctionne. C'est ça, moi pendant tous les épisodes et je me dis bon ok, c'est ça la solution, c'est ça la réponse, et en fait non, deux secondes après ils me disent non, c'est pas ça. Et je trouve que c'est vraiment audacieux, c'est pas toujours payant, mais c'était top.
Et la série vaut le coup dans sa globalité?
Oui, franchement, c'est... Ouais, voilà, c'est audacieux. On ne voit pas ça souvent. Par contre, parfois, ils se prennent un peu les pieds dans leur propre tapis, quoi.
Stéphane, Kurt sur Netflix.
Non, c'était horrible. Next.
Bon, du coup, Perry Mason.
C'était horrible. Next. Non, alors, non, pour le coup, pour Perry Mason, je voulais y croire. Sauf que c'était chiant à mourir. Il y a pas grand chose qui m'a emballé, alors que le Los Angeles de 1930, il faut pas que je confonde, oui c'est ça, c'était plus ou moins la même période que Penny Dreadful. En fait il y a quelque chose, une émulation dans ce Los Angeles là qui est vraiment intéressante, sauf que il se passe rien quoi, enfin
Perry Mason, c'est la formule HBO appliquée à la lettre.
Ouais, c'est ça.
Ah. C'est vraiment du HBO pur jus, mais il n'y a aucune vision derrière, et c'est triste.
Des super acteurs cochés, des super réalisations, c'est bien. Il faut que ce soit bien reconstitué, c'est bien fait. Et puis au final, ça cartonne. Alors là, tu te demandes, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, à vouloir regarder du Perry Mason en 2020, quoi.
Ah ouais, enfin, ça cartonne.
Ah, ça cartonnait. Ils ont fait des records. Ils ont même renouvelé, alors qu'à la base, c'était censé être plus ou moins une mini-série, quoi. Enfin, tu dis, mais non, mais les gars, quoi. Enfin, il y a mieux à regarder en 2020, quoi.
À qui Brave New World?
Ouais, bah, ils sont complètement passés à côté du bouquin pour moi, même si c'était joli à regarder, en mode les acteurs étaient bons, l'univers était plutôt sympa et bien foutu, mais le message, bof quoi, voilà, ce qui est dommage.
Alors moi, j'ai pas lu le bouquin, donc j'ai trouvé la série très bien, mais voilà.
Bah, c'est joli à regarder en tout cas, ça c'est
oui.
sûr.
Et puis il y a du cul tout le temps, c'était tellement bien.
Ouais. Super.
C'est sur c'est une chaîne, c'est Peacock. Sur le service Peacock, ouais. Maxime, Doom Patrol.
Ah, eh ben, Doom Patrol, j'ai rattrapé pendant l'été. La saison 1 est grandiose. Vraiment, merci Stéphane.
Avec plaisir.
Mais alors, la saison 2, c'est vraiment pas ça. J'étais déçu, mais parce que j'ai enchaîné aussi. Oui. Mais j'étais vraiment déçu. Ils ont un antagoniste principal. J'ai juste envie de lui mettre la tête dans les toilettes, de tirer la chasse pendant 3 heures. Parce que la Dorothy, la fille de... J'ai oublié son nom. Timothy Dalton.
Ouais.
Voilà. C'est pas possible, vraiment, c'est pas possible. La crise n'est pas bonne. Les épisodes autour d'elle sont absolument pas bons. Vraiment, il y a un truc qui va pas du tout. Il y a que le dernier épisode où vraiment c'est plutôt pas mal. On retrouve un peu de ce que j'aimais dans la saison 1. Mais c'est avorté donc, à cause du coronavirus. Donc à voir la suite. Je serai là pour la saison 3, mais vraiment la saison 2 n'est pas bonne.
Et on reste dans les super-héros avec Stargirl, Stéphane.
Eh ben, c'est une belle surprise.
Ah,
belle surprise parce que c'était sympathique. C'était, comme on a dit, je ne sais plus si c'était dans cette émission ou dans une autre, c'était du DC Universe, donc ils ont mis du fric, donc ça se voit. Et c'était au final vraiment entraînant sur les 13 épisodes. Et moi, je serai là pour la saison 2, même si ça ne sera que la CW. Et là, j'ai peur. Voilà.
C'était sympa quand même, j'étais assez surprise, mais je m'attendais pas à apprécier. Au final,
ça passe bien, hein, c'est ça qui est cool.
Je craignais en fait.
Stéphane garde la parole sur A Suitable Boy.
Ouais, alors bah, c'est l'adaptation d'un roman indien qui est très célèbre. Qui s'appelle donc A Suitable Boy ou Un garçon convenable. Et en fait, ça raconte juste. C'est une fille, Lata, qui sa mère veut la marier. Donc en fait, eh ben, elle rencontre plusieurs prétendants et elle ne sait pas qui choisir. Donc voilà, ça se passe en Inde. Alors là, il faut noter que c'est donc la BBC et c'est la première fois où tout le casting est intégralement indien et réalisé par des Indiens. Donc c'était voilà et c'est vraiment mignon à souhait et je suis content parce qu'à la fin elle a choisi le prétendant que je préférais.
Maxime, Search Party saison 3.
C'était horrible. Next.
Et bah du coup Lovecraft Country, la série dont tout le monde parlait il y a encore une semaine, qui arrivait sur OCS. Est-ce que ça vaut vraiment le coup?
Ah bah pour moi oui. Vraiment, il y a beaucoup de critiques sur la série, on en a parlé avec Stéphane et je suis d'accord avec certaines d'entre elles, notamment son côté un peu épisodique, enfin presque anthologique,
ouais.
La manière dont tu racontes les choses et ça donne un peu un côté foutoir, mais moi je trouve que ça va super bien dans la série parce qu'il y a une rage, une colère dans le propos sur les violences policières, sur les violences faites aux Noirs, vraiment, ils transmettent cette colère, c'est dingue. Et ça va super bien dans le côté un peu fantastique et...
Et pulp.
Et pulp. Attends, hein, parce que Lovecraft, du coup, c'est un...
Ouais, un raciste notoire. Un
suprémaciste, quoi. Donc ouais, tant mieux.
Et pour le coup, autant l'univers fantastique n'est pas encore super bien dessiné. Je pense que ça va se faire au fur et à mesure de la saison. Mais alors, chaque épisode... Enfin, il y a une montée en tension... Je termine l'épisode, j'ai envie de péter un mur en fait.
Moi je tempérerai un tout petit peu, mais parce que je suis pas donc c'est vrai que ça fait anthologique, donc c'est un peu chiant, je trouve ça manque de fluidité parce que c'est vraiment une intrigue, un trope de la science-fiction, enfin du fantastique et voilà quoi. Enfin bon bref, c'est un peu compliqué. Le seul truc que je retiens, c'est Journey Smollett, quoi. Alors, je savais qu'elle était déjà exceptionnelle avant, mais alors là, elle a, avec le personnage de Letty, elle est exceptionnelle, quoi.
Enfin, bon. Mais du coup, elle apparaît plusieurs fois ou pas?
Ben, elle est tout le temps là.
D'accord.
Et l'épisode 3, qui est plus ou moins centré sur elle, est vraiment top, quoi. Vraiment.
Alors, autant, normalement, c'est Atticus qui est le personnage principal. Sauf que, bon, moi, j'ai un peu de mal avec l'acteur, je trouve qu'il n'a pas vraiment de charisme. Mais alors, elle, dès qu'elle est dans l'écran, elle pète. Ah, ouais. Écran. Vraiment, elle prend toute la place. Elle est géniale. Le troisième épisode où c'est centré, oui, sur elle et sur sa sœur, et on est en mode huis clos dans une maison, maison hantée par un fantôme raciste. Il est génial pour ça, pour montrer tout le talent de Journey. Franchement, c'était super bien.
Elle n'a pas la carrière qu'elle mérite, hein.
Non.
Bah, on l'a connue toute petite, quand même.
Et oui, parce que Tom vient à peine de la découvrir dans Friday Night Lights, quoi.
Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai beaucoup de réserves sur la série, parce que le premier, j'avais lu des critiques dithyrambiques, alors qu'en fait, il se passe rien pendant 50 minutes. C'est des poncifs, et ensuite, voilà, c'est du gros délire de monstre pendant 10 minutes. Donc, ok, ça donne envie. Le deuxième m'a ennuyé au plus haut point. C'est les trucs de, pas de secte, mais genre de...
Société secrète.
Ouais, société secrète, ça m'a ennuyé. Heureusement que c'était terminé à la fin de l'épisode, parce que j'en aurais pas bouffé un deuxième. Et le troisième, alors je l'ai pas regardé. Enfin, j'ai regardé en accéléré, tellement ça m'intéressait pas.
Ah ouais.
Alors c'est vraiment le côté découpé comme ça, je sais pas trop où ça va encore.
Alors, il faut noter que dans le roman de Matt Ruff, dont c'est adapté, est pareil. Hein, c'est ouais. Plus ou moins 8 histoires qui se chevauchent, et c'est pareil. En fait, ils ont fait que c'est lui aussi, il a rendu hommage au pulp et tout ça, ouais. Machin. Donc c'est vraiment ça, quoi.
Parce que autant c'est bien fait, c'est bien foutu, mais autant déjà le héros. Ouais. Charisme, ouais. Je trouve déjà
c'est un physique, hein, qu'ils ont embauché, c'est
ouais,
pas
bah, ouais bah non enfin ouais, hein. je sais pas ça va pas du tout, heureusement qu'il y a tous les autres à côté, mais ouais ça m'engage pas trop pour la suite. Alors, je regarderai, parce que justement si c'est un univers un peu différent chaque fois, il y aura peut-être une proposition différente et il y aura peut-être des épisodes évidemment qui sortiront du lot, mais voilà, ça partait bien. Enfin, je me dis, ok, il y a du potentiel, mais là, je vois que je sais pas trop où ça va et ça me dérange un peu. Pourtant, c'est ce que je voulais. Je veux des séries un peu plus formula show-esque, on va dire. Mais là, je vois pas. Enfin, y a rien qui m'accroche.
C'est un format très très particulier, je trouve.
Bah oui.
Pour HBO, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Je trouve.
Je trouve que les épisodes sont longs aussi.
Oui, clairement.
Ils sont un peu plus longs. Alors que tu vois, ouais. Des séries comme Raised by Wolves, ils font 40 minutes. Alors que t'as l'impression qu'ils pourraient durer des heures, mais c'est du 40 minutes, c'est plié. Alors que là, je regarde la montre assez souvent, quoi.
Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Alors je sais pas si pour le coup qui semble avoir lu. T'as lu du vol Lovecraft ou pas?
J'ai lu du Lovecraft, ouais.
Et sauf que t'as pas vu la série.
Non.
Donc tu vas pas pouvoir me répondre. Mais il faudra que tu me redises à un moment donné, parce que moi qui ai pas lu du Lovecraft, je sais pas si au visionnage des épisodes il me manque une seconde lecture pour comprendre un peu plus de choses que ce qu'on me propose. C'est là aussi où je me dis s'il faut, en fait, les gens qui l'apprécient vraiment doivent avoir compris plus de choses que moi qui la vois sans avoir le bagage Lovecraft derrière, quoi.
Ça m'étonne que t'aies pas eu, d'ailleurs, c'est plutôt ton genre, non?
Et pourtant j'ai commencé à monter un halluciné, mais ça m'a jamais... J'ai du mal, en fait.
Moi j'aime pas. Arrivé, quoi. J'en ai lu, mais j'ai pas aimé.
Ouais. J'y arrive pas, donc je me suis jamais trop forcé, mais il faudrait que je vais essayer, je crois. Après avoir vu la série, je crois que je vais essayer pour essayer de comprendre s'il y a un truc par derrière du Lovecraft qui me manque pour essayer d'apprécier un peu plus.
Eh ben, très bien, merci Aki, merci Stéphane, merci Maxime.
Attends, j'ai pas pu dire pour Away, c'est que c'était nul et qu'il fallait une extension. Je vais le dire.
C'est vrai, bon, allez, on n'a pas beaucoup parlé ce week-end, hein. C'est sorti ce week-end, mais a priori.
Ah oui.
Peu de retours, ouais.
En fait, c'est chiant que dès qu'une femme devienne astronaute et qu'elle part dans l'espace, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'elle soit mère.
Ah ouais.
Voilà, non, vraiment, c'est tous les films de l'espace. Ok, ouais, une astronaute femme, mais en fait, bah non, c'est juste une mère, en fait. Voilà.
Merci, on se retrouve pour un nouveau numéro très prochainement. D'ici là, Serial Causeur sur tous les réseaux et toutes les plateformes de podcast, et à bientôt.
Au revoir.
Bonne soirée. Enfin, bonne journée. Bref.